السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
D'aucuns accusent certains titulaires de postes au sein de la Jamaat, ou ils accusent même ceux qui ne sont pas titulaires de postes. Et ces accusateurs affirment que ces personnes possèdent tel ou tel défaut, qu'ils ont commis tel ou tel méfait, ou qu'ils ont commis telle entorse à la charia. Et ces accusateurs recommandent que ces derniers soient punis sur le champ. Ils recommandent qu'ils soient punis sur le champ car ils sont en train de ternir l'image de la Jamaat. Or, la plupart de ces accusateurs envoient des lettres anonymes où ils signent sous un pseudonyme et donnent de fausses adresses. Évidemment, on ne donne pas de suite à pareille dénonciation. D'ailleurs, il est impossible de le faire. Et après quelque temps, on reçoit une autre plainte de la part de l'accusateur qui déclare « J'avais écrit à ce sujet, mais aucune mesure n'a été prise. Ce sera là une grande injustice si rien n'est fait à ce sujet. » Cette maladie qui est d'envoyer des plaintes anonymes sévit le plus chez les Pakistanais et chez les Indiens. On reçoit à peine ce genre d'accusation de la part des membres appartenant à d'autres nationalités. Cette maladie est aussi courante chez certains Pakistanais qui habitent ailleurs, hors du Pakistan. Certains d'entre eux envoient des accusations qui sont anonymes. Cette pratique n'est pas nouvelle. Pareil accusateur existe à toute époque, à l'instar de certains qui m'écrivent ces jours-ci. Pareil accusateur qui envoyait ces dénonciations anonymes existait à l'époque de Hadrat Muslim Maud, à l'époque du troisième et du quatrième calife. Hadrat Muslim Maud Aradotanhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a prononcé une fois un sermon sur une accusation de cette catégorie. Étant donné qu'il y traite de ce sujet de manière exhaustive et précise afin de réduire au silence cette catégorie de gens, j'en profiterai pour le sermon d'aujourd'hui. Ceux qui envoient ces accusations anonymes ou sous des pseudonymes sont soit des hypocrites ou soit des menteurs. S'ils étaient courageux et véridiques, ils ne se seraient inquiétés de rien. Ils promettent d'être prêts à sacrifier leur vie, leur bien, leur temps et leur honneur. Or, lorsque, selon eux, l'honneur et la dignité de la Jamaat sont en péril, eh bien, ils ne dévoilent pas leur nom, afin que leur respectabilité, afin que leur honneur ne soit point terni. Les propos de celui qui a commis une erreur dès le début sont fort probablement erronés. Dans le Saint-Coran, Allah l'Exalté affirme qu'il faudra enquêter suite à une information reçue. Toute personne douée de bon sens sait qu'une enquête ne peut être effectuée immédiatement après que l'informateur ait fourni son information. D'ailleurs, aucune enquête n'est menée sur le champ. Tout d'abord, on étudie le caractère de la personne qui a transmis cette information. L'investigation débute avec cet examen. On va d'abord s'assurer si le concerné est exempt de tout péché. On va voir s'il n'est pas coupable de quelque méfait. On va voir s'il n'est pas faible dans sa foi. Attention que sa foi soit chancelante et qu'il accuse autrui de tel ou tel méfait. Généralement, on porte une accusation monstrueuse ou une accusation terrible à l'encontre d'autrui, qu'il soit titulaire de poste ou pas. Et on accuse une personne avec virulence. On porte ces accusations terribles lorsque autrui est en train de mettre en péril les intérêts personnels de l'accusateur. Ainsi, avant de mener l'enquête, l'on doit se demander si l'accusateur est croyant ou impie. Cependant, quand on ignore l'identité de l'accusateur, on ne sait pas dans quelle catégorie le placer. Il est possible qu'on mène une enquête indépendante si un informateur nous informe d'un fait susceptible de nuire aux intérêts de la Jamaat. De même, si on connaît l'identité de l'accusateur, on mène en premier une enquête sur sa conduite, tout comme je l'ai déclaré auparavant. De même, on tente de connaître l'authenticité des informations qu'il a fournies afin de savoir s'il a dit la vérité ou pas. Hazrat Muslim Maud, radiallahu anhu, déclare que dans le Saint-Coran, Allah l'Exalté déclare In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Si un injuste vous apporte quelques nouvelles, et s'il accuse autrui d'un méfait quelconque, assurez-vous de l'exactitude de ses propos avant de prendre les mesures appropriées. Or, ici, l'accusateur est lui-même coupable en dissimulant son identité. Et il insiste aussi pour qu'on prenne pour argent comptant ses accusations et qu'on punisse immédiatement celui qu'il accuse. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu explique que le terme fasik ne désigne pas uniquement les pécheurs. Selon la langue arabe, le vicieux est qualifié de fasik. Or, ce terme a plusieurs acceptions. Fasik signifie aussi celui qui est colérique, celui qui se querelle pour un rien. Le terme fisk signifie aussi la désobéissance, le désobéissant, ainsi que celui qui ne coopère pas sont aussi qualifiés de fasik. Fasik signifie le querelleur, celui qui ne coopère pas. Le fasik est aussi celui qui grossit les petits défauts des autres pour les étaler au grand jour. Et il croit et il insiste qu'autrui subisse un châtiment sévère suite à ses accusations, et que la personne accusée ne doit point être pardonnée. Le rusé est aussi qualifié de fasiq. Hadrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu raconte à propos d'un Ahmadi, qui était de l'époque ancienne et qui était sincère. Il n'y a pas de doute quant à sa sincérité. Or, cet Ahmadi lançait des fatwas très virulentes pour des moindres fautes. Hazrat Muslim Aoud raconte qu'il avait pour maladie de lancer des fatwas qualifiant autrui de mécréant pour des broutilles. Ayant vu une faute, il lance une fatwa de kufra. À titre d'exemple, dit le deuxième calife, quand on est en position assise lors de la salah, lorsqu'on récite at-tahiyyat, on est enjoint de pointer verticalement les orteils du pied droit. Celui qui ne suit pas cette injonction est, quant à lui, à la lisière de l'incroyance. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu déclare « Étant donné que je souffrais de la goutte, il m'était impossible de pointer verticalement mes orteils sur le sol pendant que je récitais le tashahoud. Je le faisais quand je ne souffrais pas du pied. » Il ajoute que si le hafiz, c'est-à-dire la personne évoquée plus haut, était vivant, il m'aurait peut-être qualifié de mécréant avant la fin de la journée. Ainsi, ce genre de personne existe. Elle lance ses fatwas de kufr, car ne pas pointer verticalement les portails du pied droit est une entorse à la sunna du saint prophète Mohammed B.S.A.L.U. Et selon lui, on en déduit que l'on ne croit pas dans la sunna du saint prophète Mohammed S.A.L.U. Si on ne croit pas dans la sunna du saint prophète, cela signifie qu'on ne croit pas dans le Saint-Coran. Si on ne croit pas dans le Saint-Coran, cela signifie qu'on ne croit pas en Allah l'Exalté, et de ce fait, on est mécréant. Hazrat Muslim Aoud a cité l'exemple de cette personne rigoriste, quoiqu'elle était sincère. Or, celui qui dissimule son identité, qui est faible dans sa foi, et qui lance des fatwas contre les autres, eh bien, celui-là tombe lui-même dans la catégorie des fasik à la lumière des définitions présentées plus haut. Que tous ces accusateurs anonymes comprennent que cette action de leur part est une transgression des préceptes coraniques. C'est là une transgression des préceptes coraniques, car le Saint-Coran affirme qu'il faut en premier examiner le caractère de celui qui a porté cette accusation. Si l'on prenait des mesures dans la foulée des accusations sans mener d'enquête, eh bien, au lieu de progresser, la Jamaat régressera. Ni le calife, ni la Nizam et Jamaat ne mèneront d'enquête en ce cas. On commencera à suivre les souhaits des autres et cela ne mènera point au progrès. Chaque individu viendra et exigera qu'on rende un verdict en accord à ses souhaits. Hazrat Muslim Aoud Radio déclare: même si nous savons que le concerné est très prudent, même si nous savons qu'il est vertueux, qu'il est sincère, s'il porte une accusation à l'encontre d'une tierce personne, on mènera certainement une enquête sur l'affaire, même si on connaît très bien le concerné, la personne qui a accusé. Même si l'on est certain que l'accusateur est sincère, qu'il est vertueux, qu'il est juste, qu'il ne commet pas de faute, il faudra connaître le fond de l'affaire. Il faudra enquêter sur la personne, car aucun individu ne peut affirmer qu'il faudra accepter telles quelles toutes les allégations qu'il présente et que l'on doit rendre un verdict en accord à ses déclarations. Hazrat Muslim Aoud Radio Talanhu relate que le saint prophète Mohammed Bissassa lui était une fois en train de diriger la prière et il a commis une faute dans la récitation du Saint-Coran. Ali Radio Talanhu faisait partie des fidèles et il cita la partie manquée lors de la récitation. Cette action de sa part avait déplu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demanda: qui t'a demandé de citer cette partie? Ce mécontentement était peut-être dû au fait qu'Ali Aradotaranhu avait d'autres grandes responsabilités et qu'il devait laisser ses tâches insignifiantes aux autres et qu'il devait laisser cette tâche au qari, au lecteur du Saint-Coran, à qui le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné le Saint-Coran. Ali Aradotanonho devait laisser cette tâche à ceux qui récitent le Saint-Coran. Hazrat Muslim Aoud déclare à propos de cette accusation anonyme. Il dit: il se peut que l'accusateur soit une personne importante. En ce cas, je lui conseille de laisser ses affaires aux autres et de se consacrer à ses tâches. L'accusateur n'a pas dévoilé son nom, étant donné que l'on ignore son statut et son importance, on ne peut lui prodiguer des conseils en accord à cela. D'ailleurs, il a porté des accusations à l'encontre de nombreux responsables, à l'encontre des nazirs et des membres de la Lajna, et il a proféré des accusations outrageantes, affirmant qu'un tel possède tel ou tel défaut. D'une part, il accuse ces personnes de transgresser les préceptes du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Transgresser les commandements du Saint-Prophète, transgresser les commandements du Coran est un très grand défaut. C'est pour cette raison que c'est là un très grand défaut. Un musulman qui ne transgresse pas les préceptes du Coran et du Saint-Prophète, paix soit sur lui, n'est pas coupable de méfaits. Mais il en sera coupable s'il transgresse ses préceptes. En tout cas, l'accusateur soutient que ces gens transgressent les commandements du Saint-Prophète et du Saint-Coran. Mais d'autre part, l'accusateur lui-même en est coupable. Il en est coupable car il transgresse les règles eu égard aux accusations et aux preuves qui doivent accompagner ces accusations. La plupart de ces gens en sont coupables. Quand ils m'écrivent ces lettres anonymes, eh bien, ils violent ces principes. Respecter les préceptes du Saint-Coran et appliquer la sunna du Saint-Prophète sont des actions essentielles. Le Saint-Coran affirme que lorsqu'on parle ouvertement à propos d'un fait, il faut fournir les preuves à l'appui et que l'on doit enquêter. Mais si le nom de l'accusateur est inconnu, comment alors enquêter? Car l'accusateur lui-même est en train d'enfreindre les préceptes du Saint-Coran. La vertu réside dans le respect des enseignements du Coran ainsi que des enseignements du Saint-Prophète. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit. Même si on considère quelque chose désagréable, en raison de son dégoût personnel ou à cause de l'influence sociale, si l'acte n'est pas condamnable selon les préceptes du Saint-Coran et selon les préceptes et la sunna du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, eh bien, en ce cas, c'est une action appropriée et il n'y a pas de mal. D'aucuns sont très stricts dans certaines matières en raison de leur nature, en raison de leur coutume et de leur tradition. Or, leur approche n'a aucune valeur, même s'ils affirment agir au nom de la religion. Hazrat Muslim Maoud, radiallahu anhu, explique ceci en référence à un récit du Messie premier, alayhi salam. C'est un récit qui a été relaté à maintes reprises auparavant. Maintenant, il est cité en relation à ce sujet. Hazrat Muslim Maud relate qu'une fois, le Messie premier Islam marchait sur la plateforme de la gare avec son épouse. L'application de la parda des règles de la modestie islamique de cette époque était très stricte. Les femmes venaient à la gare dans des palanquins. Cela concernait en particulier celles qui appartenaient à de grandes familles. Et les palanquins étaient couverts des deux côtés de rideaux. Ainsi, elle était transportée jusqu'au train, tout assise à l'intérieur des palanquins, et elle entrait aussitôt dans le wagon du train. Telle était la norme de la ségrégation à l'époque. Et une fois dans le wagon du train, on fermait les fenêtres afin que personne ne puisse voir ces femmes. Hazrat Muslim Maud dit que ce type de parda était pénible et était contre les préceptes de l'islam. Le Messie premier Islam, quant à lui, respectait les enseignements de l'islam. Hazrat Umul Mumineen, l'épouse du Messie premier Islam, portait la burqa et elle sortait souvent faire des promenades. Ce jour-là, elle portait sa burqa et le Messie premier Islam marchait avec elle le long de la plateforme. Maulvi Abdul Karim était accompagné du premier calife. Maulvi Abdul Karim était précipité, hâtif par nature. Il croyait que tout cela n'était pas de bon aloi. Il n'avait pas le courage de parler directement au Messie premier al-Salam et il est donc parti voir le premier calife et il lui a dit: quel est cet outrage? Il y aura grand bruit dans les journaux demain. Les gens vont publier des tracts en disant que Mirza Saheb marchait sur le quai avec sa femme. Allez lui expliquer cela. Le premier calife a répondu: Qu'y a-t-il de mal en cela? Je ne vois aucun mal en cela. Si vous y voyez quelque mal, eh bien allez-y, dites-le lui vous-même. Maulvi Abdul Karim est parti voir le Messie promis l'Islam, qui s'était éloigné très loin dans sa marche. Lorsque Maulvi Abdul Karim revenait, il avait la tête baissée. Le premier calife a déclaré : j'avais envie de connaître la réponse qu'il avait reçue. Je lui ai demandé : qu'a répondu le Messie promis l'Islam ? Maulvi Abdul Karim a déclaré : quand je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire et que ce que diront les gens, eh bien, le Messie promis l'Islam a répondu : en effet, que diront-ils ? Ils diront que Mirza Sahib marchait avec sa femme. Maulvi Sahib est retourné tout honteux. Hazrat Umm al-Mu'minin observait les règles de la modestie islamique et il n'y a rien de condamnable qu'un mari marche ensemble avec sa femme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait aussi avec ses femmes. Une fois, le saint prophète avait fait une course avec Aïcha radhiyallahu anha, son épouse, en public. La première fois, le saint prophète, paix soit sur lui, a perdu la course et Aïcha radhiyallahu anha a gagné la course. Après un certain temps, ils ont refait une course. Et cette fois-ci, le saint prophète, paix soit sur lui, a remporté la course. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à Aïcha radhiyallahu anha que c'est une revanche pour la dernière fois. C'est-à-dire maintenant, le score est à égal. En bref, le saint prophète ne considérait pas comme inapproprié le fait de sortir avec ses épouses. Si l'islam a autorisé une action, l'accomplir ne peut être condamnable. Ainsi, quiconque dépose une plainte contre autrui, cela signifie qu'à ses yeux, l'accusé transgresse les préceptes de l'islam. Cependant, Hazrat Muslim Aoud déclare à propos de l'accusateur en question, il affirme dans sa lettre qu'un tel ou un tel est de classe inférieure. Il y évoque aussi ses rancunes, ses critiques personnelles et familiales. Il déclare qu'un tel est un scélérat, qu'on lui a confié telle tâche. Et la charia exige des témoins pour certaines des accusations qu'il a portées. Et il s'agit ici de témoins oculaires. La charia affirme que l'accusateur doit fournir 4 témoins oculaires, sinon sa plainte ne sera pas recevable. Parfois, certains accusent d'autres d'être coupables de relations illicites. Pour porter pareille accusation contre un couple, l'islam exige que le plaignant doit produire 4 témoins. Hadrat Muslim Aoud déclare en outre: il est fort étrange que cette personne manifeste un grand sens de l'honneur pour la foi et pourtant sa propre pratique transgresse les préceptes du Coran. Il profère contre autrui des allégations interdites par le Saint-Coran. Non seulement le Saint-Coran les a-t-elle interdites, mais il a aussi imposé des restrictions, à savoir que celui qui est coupable d'une accusation mensongère doit être puni de 80 coups de fouet. En d'autres termes, l'accusateur viole une injonction claire de la charia et il affirme qu'un tel transgresse les commandements du Saint-Coran quand en réalité l'accusateur lui-même est coupable de cette transgression. Hazrat Muslim Aoud déclare plus loin : voyez donc le statut de celui qui a porté cette accusation. Tout d'abord, il n'a pas divulgué son nom. Puis, il n'a pas fourni les preuves requises. Je ne suis pas au-dessus des lois de la charia, ni le Messie promis à l'Islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi obligé de suivre les préceptes de la charia. La charia impose une punition pour les accusations portées par cet individu. La charia a précisé une procédure appropriée pour le témoignage des témoins. Et il est essentiel de suivre cette procédure. Ici, l'accusateur souhaite que d'autres soient punis pour avoir enfreint une loi du Saint-Coran, mais il ne veut lui-même pas être puni. Le deuxième calife déclare : je me souviens d'une blague de mon enfance. J'en ai beaucoup apprécié à l'époque et j'en souris même aujourd'hui. J'étudiais en CM2 et un de nos professeurs avait adopté la méthode suivante. Si un étudiant répondait à sa question dans le temps alloué, il aura une position plus élevée dans la classe. Nous étions tous debout et le professeur a posé une question. L'un des étudiants a levé la main et a donné la réponse, mais un autre étudiant a levé la main et a dit « Maître, cette réponse est incorrecte ». L'enseignant a dit au premier élève de descendre et a demandé à l'autre étudiant de monter. L'élève qui venait de descendre a dit « Maître, en indiquant ma faute, cet élève a mal prononcé le mot « ralat », ralat qui signifie « incorrect ». Au lieu de dire « ralat », il l'a prononcé « ralt ». Et cette prononciation est fautive. Le maître a reconduit l'étudiant à sa position initiale et a déplacé l'autre élève vers le bas. Hazrat Muslimo déclare « Tel est le cas de certains accusateurs, indépendamment du fait que leur allégation est vraie ou non, la façon dont ils la présentent est condamnable. Par conséquent, ils méritent une punition en voulant faire punir l'autre. Ensuite, ils s'exclament que personne n'attrape le coupable, mais qu'au contraire, on a puni celui qui attire l'attention vers le coupable, alors que ceux habilités à sanctionner ne peuvent rien faire car ils sont assujettis à la charia. Si vous désirez établir la loi du Saint-Coran, vous allez devoir appliquer la loi de Dieu sur votre personne. Si vous souhaitez que la loi de Dieu ne s'applique qu'aux autres, mais pas à votre personne, eh bien, en ce cas, ce ne sera pas une action juste de votre part. Je dis donc à ceux qui critiquent les autres, « Ayaz, reconnais ton statut. » C'est-à-dire, avant de porter des critiques, accomplissez votre introspection. D'aucuns accusent anonymement les autres, car ils n'ont aucune considération à leur égard. De plus, ils présentent comme preuve pour appuyer leur accusation qu'un tel fait partie de telle famille, qu'il n'a pas cette importance, qu'il ne mérite aucune considération, qu'il est ainsi et ainsi, et ces accusations sont infondées. Et en conséquence, ces accusateurs deviennent en réalité ceux qui ne méritent aucune considération. Nous devons suivre les commandements d'Allah, l'exalté, et c'est lui qui est notre Seigneur et le Seigneur de tout le monde. C'est lui qui est le pourvoyeur, le nourricier. Donc, si nous obtenons tout cela de la part d'Allah, nous devons suivre Allah, l'exalté, et nous ne devons pas suivre ceux qui portent ces accusations. Comme je l'ai mentionné, ces accusateurs souhaitent que les autres soient condamnés selon la charia, alors qu'ils veulent être exempts des règles de la charia. Ils veulent se libérer des règles de la charia. Ils deviennent eux-mêmes leurs propres justiciers. Ainsi, de telles personnes, quand la vérité de l'affaire éclatera, eh bien, ces personnes seront condamnées par la charia. Dans certains cas, les témoins sont nécessaires. S'il n'y a pas de témoins, alors l'affaire n'a aucune valeur. Cette affaire sera donc jugée à la lumière de la charia et du Saint-Coran. Parfois, on dit qu'un tel est coupable de parjure et qu'il a été innocenté. Un cas similaire fut présenté au Saint-Prophète, paix soit sur lui. Deux querelleurs se sont présentés à lui et il a déclaré, selon le commandement d'Allah, une personne doit jurer d'entre vous. L'autre a déclaré que l'autre est un menteur, il va jurer 100 fois. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, « Je dois prendre une décision selon le commandement divin. S'il est coupable de parjure, eh bien son cas est entre les mains d'Allah, il le punira lui-même. » Il faut toujours garder à l'esprit qu'après une accusation, l'affaire ne sera pas jugée selon les principes fixés par l'accusateur. Après une accusation, la décision sera prise conformément aux préceptes de Dieu. Ainsi, là où deux témoins sont requis, il faudra présenter deux témoins. Là où quatre témoins sont requis, il faudra présenter quatre témoins. Et l'affaire sera étudiée et la décision sera prise en fonction de ces préceptes. Notre succès réside dans le fait que nous devons régler nos affaires et prendre nos décisions conformément aux préceptes divins. Il ne faut pas forcer la Nizam-e Jamaat ou le calife à prendre des décisions conformément à votre ego, à vos intérêts personnels. Qu'Allah accorde aux personnes qui portent ces accusations de faire preuve de plus de sagesse, afin que lorsqu'elles portent une accusation, qu'elles le fassent en fournissant toutes les preuves et en divulguant leur nom et leur adresse, et qu'elles participent à l'investigation de l'affaire. De même, lorsque certaines personnes voient qu'il y a un réel dysfonctionnement dans le système de la Jamaat, eh bien, ces personnes doivent faire preuve de courage et venir de l'avant pour présenter cette critique, et elles doivent aussi défendre ce qu'elles avancent. Qu'Allah permette aussi au système de la Jamaat de faire preuve de sagesse et que les personnes qui ont été désignées par le calife pour prendre des décisions, eh bien, qu'elles puissent respecter chaque aspect de la justice en suivant les commandements d'Allah l'Exalté et en respectant la Sunna. Après les prières, je vais diriger aussi les prières funéraires de certaines personnes. La première prière est celle d'un martyr qui s'appelait Sheikh Sajid Mahmoud Saheb, fils de Sheikh Majid Ahmad Saheb. Il avait 55 ans et habitait dans le quartier Gulzar Hijri, qui se situe dans le district de Karachi. Après la prière de Maghrib le 27 novembre 2016, les assaillants lui ont tiré dessus alors qu'il était assis dans sa voiture devant sa maison. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Selon les détails qu'on a reçus, Sheikh Sajid Mahmoud était fournisseur de pièces détachées pour les moulins à farine à Gulshan Marmar à Karachi. Et le 27 novembre 2016, à l'heure de la prière de Maghrib, il se rendait chez lui après avoir fait ses courses et il était assis dans la voiture quand des assaillants inconnus à moto lui ont tiré dessus quatre fois. Ensuite, ils sont retournés et ils ont tiré quatre fois de plus et se sont enfuis. Une balle a atteint le côté droit du torse de Sajid Mahmoud Saheb et est sortie du côté gauche en traversant ses côtes. Et une autre balle a touché sa jambe. Sajid Mahmoud a été immédiatement envoyé à l'hôpital le plus proche et ensuite il a été transféré à l'hôpital à Rahan. Mais il n'a pas pu être animé et il est tombé à martyr avant même d'avoir reçu les soins. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sheikh Fazal Karim Saheb, l'arrière-grand-père, est le premier Ahmadi de la famille du martyr. Il a prêté allégeance sur la main du deuxième calife en 1920. Le père du martyr, Sheikh Majid Ahmad Saheb, est venu de Kanpur s'établir à Lahore après la création du Pakistan et il s'est installé à Karachi en 1961. Le grand-père paternel du martyr, Raja Muhammad Sharif, a été président de la Jamaat Ahmadiyya de Delhi. L'arrière-grand-père maternel du martyr, Hazrat Aladdin Saheb, était un compagnon du Messie premier al-Islam, Sayyid Muhammad Siddiq Bani Saheb de Calcutta et le grand-père maternel de l'épouse du martyr. Le martyr a complété sa licence et par la suite il a connu 5 ans de conditions extrêmement difficiles Par la suite, il a lancé son commerce de pièces de rechange pour les moulins à farine. Dieu a beaucoup béni son commerce, un commerce qui a pris de l'ampleur. Le fils du martyr Haris Mahmoud Saab a servi comme guide du Majlis de la région et il a aussi servi comme secrétaire Wasaya de Gulshan Iqbal Karachi. Son fils, après avoir complété ses études d'expert comptable, a rejoint le commerce de son père. Le martyr possédait d'innombrables qualités. La fille du martyr, Sana Mobashira, étudie elle aussi à Karachi. Elle avait obtenu une bourse d'études de 6 mois pour partir aux États-Unis et elle a suivi là-bas une courte formation. Le martyr avait un amour indescriptible et un lien très fort avec le califat. Il conseillait souvent ses enfants de rester attachés au califat et au système de la Jamaat. Il contribuait énormément dans les fonds financiers de la Jamaat et conseillait aussi son fils à en faire de même. Il se souciait toujours de ses contributions financières et il avait placé une boîte dans son magasin où il plaçait régulièrement ses contributions financières. Dans son commerce, il était très franc et très intègre. Il veillait toujours à être véridique et il était très indulgent. Il était très aimable envers ses frères et sœurs et il ne se fâchait contre personne. Le défunt possédait un caractère pur. Il avait un très grand respect pour les liens de parenté. Il avait donné à ses deux magasins les noms de son défunt père et de son défunt beau-père. Il traitait avec une grande aménité les parents de son épouse. Il traitait tous ses amis et ses proches avec une grande sincérité. Il ne ressentait aucune antipathie, aucune rancœur à l'égard de quiconque. La description que je viens de faire est le résumé de tous les rapports reçus au sujet du martyr. La mère du martyr est très malade ces jours-ci. Et en raison de sa maladie, il était difficile de lui informer à propos du martyr de son fils. Or, quand elle a su à ce sujet, et quand elle a vu la dépouille de son fils, elle a dit spontanément « Mon fils est un martyr et personne ne va pleurer ». Et elle a répété cette phrase à maintes reprises. L'épouse de la défunte a écouté la nouvelle du martyr de son mari en faisant preuve d'une grande détermination, une grande patience. Elle a fait preuve d'une grande persévérance. Son fils relate « Mon père était imbu d'un très grand calme et il avait une très grande confiance en Dieu. Il répétait souvent que Dieu lui avait conféré un très grand honneur, un honneur qu'il ne pouvait lui-même imaginer. Il était très régulier dans ses actes d'adoration. » Ses proches témoignent que les défunts étaient très simples, étaient très humbles. Ils étaient en tous 11 frères et sœurs et ils sont tous mariés et le défunt les traitait tous avec une grande compassion et il était très attentif à leur égard. Quand la situation de la Jamaat s'était détériorée dans le district de Sakkar et que plusieurs personnes sont tombées à martyr, le défunt y avait offert ses services pendant plusieurs jours. Sa fille relate que, après le décès de mon père, je l'ai vu en rêve dans un grand jardin où étaient réunis des gens au visage éclairé, tous portaient des vêtements illustres et blancs. Mon père était aussi présent sur un endroit élevé et tout le monde l'avait entouré et faisait montre de leur joie. Quand mon père partait dans une direction, tout le monde le suivait comme dans une procession. Tout le monde était content de le voir. La mère du martyr est très faible, comme je l'ai dit, elle n'arrive pas à se déplacer. Après le martyr de son fils, elle a vu celui-ci en rêve. Elle s'est adressée à elle et lui a dit qu'il était très content là où il se trouvait et qu'il était serein et il lui disait de ne pas s'inquiéter pour lui. Le défunt laisse derrière lui sa mère, son épouse Mansoura Yasmine, son fils Sheikh Haris Mahmoud, sa fille Sana Mobashira, ainsi que 4 frères et 6 sœurs. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. La prochaine prière funéraire sera celle de Cheikh Abdul Qadir Saheb, fils de Cheikh Abdul Karim. Le défunt était un darwish de Qadian. Il est décédé le 26 novembre 2016 à l'âge de 92 ans des suites d'un arrêt cardiaque. À Allah nous appartenant et c'est vers lui que nous retournerons. Hazrat Abdullah Sanouri Saheb était un compagnon du Messie Premier Salam et était le premier Ahmadi de sa famille. En novembre 1947, lorsque la dernière délégation a pris la route au départ de Qadian, le défunt accompagnait sa mère malade sur un camion. Sa mère a fait arrêter le camion tout près de la frontière et a demandé à son fils de rester à Qadian pour protéger le quartier général. Et c'est ainsi que le défunt a fait partie des derviches de Qadian. Il avait beaucoup d'affection et était très sincère envers le califat et l'organisation de la Jamaat. Il avait une grande confiance en Dieu, il acceptait tout succès et tout échec comme un désir de la part de Dieu. Il se comportait très bien envers sa femme, ses enfants et ses proches. Jusqu'à la fin de ses jours, il préférait accomplir ses tâches lui-même. Il a servi dans divers bureaux de l'Anjuman Ahmadi de Qadian. Son fils écrit que, étant donné que la Jossasrana s'approchait, le défunt avait acheté du ciment pour refaire les murs. Cette même nuit, mon père m'a appelé et m'a dit que je crois que mon heure est arrivée. Je dois 500 roupies à une personne, il faut le rembourser. Et il m'a parlé d'autres comptes à régler et après quelque temps, il a rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui un fils et 3 filles. Son fils Nasir Wahid est en train de servir à Qadian. La troisième prière funéraire est celle de Tanvir Ahmed Lone de Nasirabad du Cachemire. Il était un policier et le 25 novembre, il était de service dans le quartier Golagam et des inconnus munis d'armes ont ouvert le feu sur lui et l'ont tué sur le coup. Ainsi donc, il est lui aussi tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était très régulier dans ses prières et dans ses jeûnes. Il était vertueux, bienveillant envers les pauvres, humble, chaleureux et fidèle. Il était toujours prêt à aider les autres et placer sa confiance en Allah. Il était très régulier dans ses contributions financières et contribuait selon les taux fixés. Il aidait ses frères et ses sœurs cadets et il les encourageait. Il était très soucieux de leurs études et de leur éducation. Selon ses voisins, le défunt était en tout point respectueux des droits des voisins. Ses collègues disent aussi qu'il était très actif dans l'accomplissement de ses tâches. Il n'était point négligent ni paresseux. Hormis sa mère, il laisse derrière lui 2 sœurs, 6 frères, sa femme, 3 enfants innocents. Un de ses enfants est Bokfenov. Qu'Allah exalte le rang du défunt et que ses enfants soient toujours attachés à la communauté et au califat et qu'ils soient imbus de piété. Et qu'Allah soit leur pourvoyeur.